Io penso che ci sia un legame.
Il y a un lien viscéral, anthropologique au Vésuve. Pour nous, le Vésuve n'est pas qu'une montagne, c'est une présence. C'est lui.
C'est dans le sud de l'Italie que nous vous emmenons pour cette nouvelle édition d'Interception. Le Vésuve domine la baie de Naples et il en est à la fois l'un des trésors et une malédiction. Du haut de ses 1281 mètres, à l'âge respectable de 300 000 ans, il fait partie depuis toujours de la vie des habitants de la capitale de la Campanie. Depuis l'éruption de l'an 79 qui a englouti Pompéi sous les retombées d'une colonne de gaz, de cendres et de pierres ponces, haute de 30 km, l'histoire en recense plus d'une trentaine, la plus spectaculaire ayant été celle de 1631. Ça fait donc très longtemps que le Vésuve est très surveillé.
Cette éruption récente, l'activité fumarolienne et hydrothermale ici à la Solfatara, toutes les secousses des tremblements de terre qui ont lieu en permanence, tout ça nous indique clairement que le volcan est encore actif aujourd'hui.
Les scientifiques ne savent pas encore dire quand surviendra la prochaine éruption dévastatrice, mais ils sont certains qu'elle aura lieu. Les autorités élaborent des plans de sauvegarde, recensent les habitants, prévoient des zones d'évacuation. Mais la culture du risque n'a pas encore pénétré les esprits.
Mara, vous habitez dans la zone rouge.
Oui.
Vous savez, en cas d'alerte, qu'est-ce que vous devez faire?
À peu près.
Entre crainte et fatalisme, les Napolitains et tous les Vésuviens s'accommodent de la présence de ce voisin menaçant qui attire tant de touristes. Et bien peu sont ceux qui envisagent de quitter la région.
Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'espère mourir ici.
Le site de Pompéi est de nouveau accessible depuis fin mai. Et c'est d'ailleurs le deuxième plus visité du pays derrière le Colisée de Rome. Vésuve, la fertile malédiction des Napolitains. C'est un reportage d'Anaïs Feuga avec une prise de son de Romain Luquiens, déjà diffusé le 30 juin 2019.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Direttore, buongiorno. Ce la rai Francesca.
Salve.
Dobbiamo scendere un piano.
On est dans ce bâtiment de l'observatoire du Vésuve. On arrive au fond du couloir et nous voici dans cette grande salle de surveillance du Vésuve, des Champs-Flégréens, Ischia, Stromboli, une soixantaine d'écrans devant nous.
Dans cette salle, nous avons des écrans qui nous montrent en temps réel les signaux sismiques. Nous voyons comment ces signaux évoluent avec le temps.
Et avec nous, Francesca Bianco, la directrice de l'Observatoire du Vésuve.
De ce côté, on voit les signaux avec la déformation des sols dans les Champs-Flégréens, les signaux géochimiques au Vésuve et aux Champs-Flégréens, les mesures de radon, plusieurs types de mesures,
divers
capteurs qui nous donnent des indications en temps réel de l'état du volcan qu'on arrive à déduire en mettant ensemble toutes ces mesures de paramètres sismiques, de déformation, thermochimiques, géochimiques, etc.
Il y a là deux personnes, est-ce que ça veut dire qu'il y a tout le temps quelqu'un en permanence ?
On
surveille 24 heures sur 24, jour, nuit, samedi, dimanche, jour férié, Noël, Nouvel An, il y a toujours quelqu'un, au minimum deux personnes, et elles contrôlent tous les paramètres qu'on surveille.
Que disent ces capteurs actuellement ?
En ce moment, tous les paramètres ne montrent aucune anomalie. C'est pourquoi le niveau d'alerte sur le volcan est au niveau de base. Je vois qu'il se passe quelque chose.
Stromboli.
C'est Stromboli. On vient d'enregistrer un événement qui n'a pas les caractéristiques de l'explosion normale. Ça ressemble à une fracturation et donc on est en train d'appeler la salle de contrôle de Catane. Et voilà, vous assistez à la vie normale de la salle de contrôle.
Donc il y a quand même de l'activité dans cette salle.
Oui, c'est l'activité normale de la salle. Être au téléphone, appeler les autres, et quand il se passe quelque chose d'important, on appelle tout de suite avec ce téléphone rouge là que vous voyez sur la table. On appelle le département national de la protection civile. C'est un téléphone avec une ligne directe. Dès qu'on décroche, on tombe directement sur la salle Situation Italie.
Quels sont les signes avant-coureurs d'une éruption ?
Nous surveillons tous les paramètres. Dans le cas où le magma devait remonter des profondeurs, la remontée rompt la roche et nous enregistrons des tremblements de terre. Comme la masse évolue aussi, la déformation du volcan devient anormale. Comme c'est une masse chaude, naturellement, au fur et à mesure qu'elle arrive en superficie, elle réchauffe l'édifice volcanique. Et donc, nous relevons des anomalies thermiques. Les fumerolles auraient aussi un contenu chimique différent de la normale. Donc, si on met ensemble tous ces paramètres et qu'on détecte des anomalies, ça nous suggère que le système est en train de changer.
Claudio Scarpati, bonjour.
Buongiorno.
Vous êtes vulcanologue à l'Université de Naples, Frédéric II. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous nous trouvons ?
Nous voici en plein centre de Pompéi, rue de l'Abondance. Une artère qui fait le lien entre les deux parties de la ville. Et regardez ici, des maisons et des bâtiments romains partiellement reconstruits.
Les deux tiers de Pompéi ont déjà été fouillés, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment ce qui n'a pas encore été fouillé.
Oui, car nous avons besoin des dépôts pour pouvoir les observer directement. Et également le rapport entre ces dépôts et les victimes. Ça nous permet de reconstruire toute l'évolution de l'éruption, du début jusqu'aux dernières phases.
Si histoire que servent les puissances célestes et qui commandent aux astres par ta voix, protège-nous des enfers qui aujourd'hui nous menacent. Grande déesse Isis, entends ma prière.
La ville a été recouverte de 6 mètres de dépôts qui se sont accumulés en 2 jours pendant l'éruption. Pour simplifier, l'éruption a eu 2 phases principales. Durant la première phase éruptive, une colonne éruptive s'est formée, une colonne de gaz de cendres et de ponce qui s'est élevée au-dessus du volcan sur une hauteur qui a atteint les 32 km à son maximum. Pour vous donner une idée, imaginez qu'actuellement le volcan mesure 1,2 km. Ça veut dire que la colonne était haute comme 30 fois le volcan, qui est déjà imposant. Un truc vraiment énorme. Cette colonne atteint la stratosphère et perd ensuite sa capacité à monter encore. Et là, elle commence à être poussée par les vents vers le sud. Ça veut dire qu'elle est passée juste au-dessus de la ville de Pompéi.
Est-ce que cette configuration peut se reproduire à l'avenir, ou est-ce que c'était vraiment lié à l'éruption de 79?
Les Pompéiens n'ont vraiment pas eu de chance. La reconstruction que les vulcanologues ont faite de toute l'histoire du Vésuve montre que la distribution des produits et donc la direction des vents ne vont jamais vers le sud. C'est le seul cas où c'est allé vers le sud. Dans tous les cas, ça va vers l'est. Les vents dominants dans notre région soufflent toujours de l'ouest vers l'est. C'est pourquoi Pline, à l'époque, et les Napolitains, à l'avenir, n'ont pas de raison d'être inquiets, parce qu'ils sont à l'ouest du Vésuve. Et ils ne seront pas concernés par la chute de matériaux depuis ce nuage éruptif.
Le plan de la protection civile retient comme modèle, plus ou moins, l'éruption de 1631, qui est une éruption subplinienne, donc une éruption de moyenne grosse intensité. Est-ce que c'est un plan adapté, d'après vous ?
Si, perché un'eruzione
oui, car c'est une éruption qui a été très bien étudiée.
La
on sait où il y a eu des retombées, on sait qu'il y a eu beaucoup de victimes, autour de 40 000. On sait qu'il y a eu plusieurs phases, une colonne éruptive avec chute de lapilli, puis des coulées pyroclastiques, ces fameuses nuées ardentes. Donc c'est un scénario très significatif pour le Vésuve.
Et quello che sappiamo fare è
ce qu'on sait faire, c'est potentiellement prévoir l'événement, mais certainement pas le type de l'événement.
Fortunata! Restitutus! Il y a quelqu'un!
À Pompéi, après les chutes de Lapilli et de Ponce pendant 19 heures, l'éruption change de style. Lors de cette deuxième phase, se forment les coulées pyroclastiques, les fameuses nuées ardentes. Des mélanges de gaz, de cendres et de pierres se détachent de la colonne éruptive et dévalent les pentes du volcan comme des avalanches brûlantes d'une énergie inouïe jusqu'à 360 km/h. Elles touchent les villes distantes de quelques kilomètres en une poignée de minutes.
Par Jupiter.
À Pompéi, d'après la reconstitution de Claudio Scarpati, 7 nuées ardentes se succèdent. La quatrième est la plus destructrice. Elle abat les murs, suffoque les habitants réfugiés dans les caves, dans leurs maisons. Il n'y aura aucun survivant après cette seconde phase de l'éruption qui dure quelques heures.
Qui abbiamo.
Voilà, nous nous trouvons ici dans la nécropole de Pompéi et nous avons toute la séquence éruptive. La partie inférieure est composée de pierres ponces, vous voyez, ces petits fragments blanchâtres. Ce sont, disons, le magma en morceaux et solidifié qui tombe de la colonne éruptive et qui s'accumule sur Pompéi. Et donc là, on a découvert que 90% de ces victimes se trouvaient à l'intérieur des maisons. Ce qui s'est passé, selon notre reconstruction, c'est que ce matériel s'est accumulé sur les toits des maisons après 1 à 6 heures après le début de l'éruption. Il y en a eu suffisamment pour provoquer l'effondrement des toits sous le poids des ponces, et donc tous ces morts. C'est très intéressant, car cette phase initiale, qui était considérée comme relativement inoffensive, est en revanche dangereuse si nous sommes en ville et si les toits sont plats. À Pompéi, on a montré que les pierres roulent à terre si la pente est supérieure à 30 degrés.
Et donc, ça signifie que
le problème, dans les zones urbaines, en ville comme ici, c'est que toutes les maisons autour du Vésuve, puisqu'on est dans une zone méditerranéenne, ensoleillée, eh bien ces maisons ont toutes un toit terrasse plat et pas en pente. Ça signifie que dans le futur, nous aurons le même problème. Cette recherche a été en quelque sorte englobée dans l'élaboration du nouveau plan d'évacuation. L'ancien prévoyait une zone rouge, mais seulement pour les zones touchées par les nuées ardentes. La nouvelle zone rouge prévoit une zone d'évacuation également pour les zones où potentiellement il peut y avoir une retombée de ponce avec une épaisseur de nature à provoquer des effondrements de toits.
Interception sur France Inter.
Les scientifiques, comme Claudio Scarpati, essayent donc de modéliser l'éruption qui frappera inéluctablement ce bassin de 2 millions d'habitants. En dernier ressort, en cas d'alerte, c'est au président du Conseil italien que reviendra la décision difficile d'évacuer ou pas la zone pour une durée indéterminée. Comment se préparent les autorités? Anaïs Feugat est allée poser la question aux responsables de la protection civile de la région Campanie.
Bonjour, Anaïs Feugat de France Inter. Salve. Nous venons voir Roberta Santagnello.
Prego, terzo piano, stanza 46. Sinistra, destra, c'è l'ascensore. Sale, il collega le indica dove andare.
Merci.
Je suis Roberta Santagnello, déléguée du président de la région Campanie pour la protection civile. Et je m'occupe des travaux publics et de la protection civile, et donc du plan d'évacuation du Vésuve et ses champs phlégréens.
Je suis Celestino Rampino, directeur de la planification des situations d'urgence.
Qui est sur la zone rouge, qui est sur la zone jaune et qu'est-ce qui se passe en cas d'éruption dans chacune de ces zones ?
Le périmètre de la zone rouge du Vésuve a été défini par la communauté scientifique et approuvé ensuite par les autorités compétentes. Elle comprend 25 communes dans cette zone rouge du Vésuve et une population à évacuer d'environ 670 000 personnes. Chaque commune de la zone rouge est jumelée avec une province d'une autre région en Italie. C'est pour garantir que la population aura un suivi dans l'accès aux services publics en cas d'évacuation, grâce à ce jumelage. La population qui sera accueillie dans ces localités pour une période à moyen ou long terme pourra continuer à bénéficier des services sanitaires, des écoles, en fait de tous les services publics.
Qu'est-ce qui se passe dans la zone rouge ? Au moment de l'éruption.
Géographiquement, le secteur rouge est le plus proche de la bouche du cratère et le secteur jaune le plus éloigné. Dans la zone rouge, il pourra y avoir du matériel magmatique et donc un impact de l'éruption plus fort par rapport à la zone jaune où on s'attend à des retombées de pierres et où il pourrait y avoir des écroulements de toits. Si on a une accumulation importante de ce matériel. Et donc, c'est sur la base de l'impact des dégâts attendus qu'on définit le périmètre de chacune des zones. Et c'est valable aussi pour les champs flégriens.
Pour être précis, il y a quatre phases d'alerte. Pendant la phase de préalarme, c'est-à-dire bien avant l'éruption, on aura déjà évacué toutes les structures hospitalières, les prisons, et on aura mis tous les biens culturels à l'abri. La population qui a des moyens de transport propres et un point de chute hors de la zone rouge peut déjà quitter la zone du cratère tout en ayant avisé la protection civile. En revanche, il devient obligatoire de s'éloigner de la zone rouge quand on arrive au niveau d'alarme. Ça doit se faire en 72 heures. Ceux qui ont leur propre véhicule peuvent l'utiliser pour partir. Ceux qui n'ont pas leur propre voiture rejoindront les régions de jumelage grâce aux moyens publics mis à disposition, bus, trains et bateaux.
Le plan de la protection civile prévoit donc une évacuation par voiture personnelle. On est ici en plein dans la zone rouge à Torre del Greco. D'un côté le Vésuve, on est au pied du Vésuve, de l'autre côté le littoral, la mer. Alors on va voir, demander aux gens ce qu'ils en pensent.
Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, j'espère mourir ici. Ici au pied du Vésuve, il ne se passe rien depuis des années. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant ? Pourquoi avoir peur ? Ça ne sert à rien, on est parfaitement conscient. C'est justement ce qu'il y a de beau dans la vie. On sait quand on est, mais on ne sait pas quand on meurt.
Quand j'étais petite, j'avais peur du Vésuve, parce que j'avais conscience de ce que n'y montrait à l'école. Et puis j'ai grandi, j'ai vu que c'était quelque chose de fascinant. Il attire les touristes. Nous sommes entre les mains de la nature, nous ne sommes personne. La vie nous a été donnée et elle nous sera reprise. On ne sait pas comment, ni quand, et on vit, c'est tout. Je fais partie de cette terre. Je suis fille de cette terre. Et c'est ici que je dois mourir.
Est-ce que vous êtes au courant de ce plan d'évacuation ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une voiture et à partir si on vous dit il faut quitter la zone rouge ?
Si c'est quelque chose de sûr, oui, parce que j'ai confiance. Mais si ça arrive d'un coup, j'embrasserai mes frères et sœurs, ma mère, mes enfants. Et dans 200 000 ans, ils retrouveront les fouilles de Torre del Greco.
Et comme disait l'autre, j'espère que je vais prendre une bonne position. Comme ça, quand ils me retrouveront, ils me mettront au musée.
Voilà, c'est ça notre philosophie.
Le plan d'évacuation prévoit que les gens prennent leur voiture pour partir. On circule bien ici ?
La circulation ici, c'est une vraie jungle. On est trop nombreux dans trop peu d'espace. Nous mourrons pour nous enfuir.
Merci. Alors on arrive ici sur les pentes du Vésuve. Bonjour.
Bonjour, je suis Simona, c'est une guide du parc national du Vésuve.
Et là, vous nous emmenez sur le Vésuve.
Je vous emmène jusqu'à la bord du cratère du Grand Cône du Vésuve. On est parti à 1000 mètres et on arrive dans la bouche du Vésuve.
À 1200 mètres.
Presque 1160 mètres, oui.
Alors allons-y.
C'est un volcan qui a fait l'histoire de Naples. Chaque fois qu'il y a une explosion, il a modifié l'environnement. Elle a influencé même l'évolution de la société tout autour du volcan. Même les traditions, les dialectes.
Pourquoi le Vésuve est si important pour la ville de Naples et qu'est-ce qui fait que les gens sont tellement attachés à cette terre?
Alors, la première chose, c'est que la terre était très fertile. Hein, parce que le Vésuve, c'est quelque chose qui détruit, mais surtout, c'est quelque chose qui donne la vie. Et même la joie de vivre. Parce que, regardez, tout autour, il y a la végétation. Hein? Il y a la forêt méditerranée. Sous le sommet, il y a les châtaigniers, les chênes verts et les gens qui vivent des produits de la forêt, qui ne veulent pas abandonner le volcan. Il fait partie de ta vie. La colère, l'odeur, les mémoires, les souvenirs des gens qui travaillent la terre, les fêtes des Vierges Marie qui sont tout autour du volcan sont vraiment... belle. Il y a un syncrétisme religieux entre les fêtes anciennes, grecques, romaines et les fêtes catholiques. Non?
Mais qui sont liées à la présence du volcan?
À la présence du volcan, oui. Le volcan, c'est au centre de la tradition.
On est en train de monter en haut du Vésuve, sur un chemin sur lequel on croise des dizaines de touristes. Et là, à notre droite, on voit la ville de Naples qui s'étend quasiment à nos pieds. On voit que c'est une zone extrêmement urbanisée et très proche.
Allez, on voit toute la ville de Naples, le centre historique, la ville moderne, le centre d'affaires. Hein, et puis la colline de Posillipo. C'est le bord du cratère de Champfregren, parce que Naples se trouve entre deux volcans actifs, le Champfregren et le Vésuve. Et puis en bas, vers le sud, on a toutes les villes, après Naples, c'est Portici, San Giorgio, Torre del Greco, Torre Ercolano, Torre Annunziata, jusqu'à Castellammare.
Et donc tout ça, c'est combien d'habitants?
1 400 000.
Est-ce qu'on essaye de revenir en arrière? Est-ce qu'il y a des plans pour désurbaniser?
Non. Il y avait un plan une fois, il y a 10 ans, plus de 10 ans, qui voulait donner de l'argent pour qui voulait s'éloigner du volcan. Mais les gens n'ont pas voulu cet compromis. Ils sont restés. Alors, et ça, il n'y a pas de plan pour désurbaniser, non.
On arrive là maintenant devant le cratère du Vésuve, et on rejoint Mara Folia Manzillo, géologue, guide vulcanologique ici sur le Vésuve depuis 20 ans.
On voit la profondeur du cratère, presque 300 mètres, et la circonférence, en fait, est 1,5 km, à peu près.
Et on voit en effet une falaise.
Oui, on voit un trou. On voit un trou rempli par les produits qui tombent, surtout de la paroi devant nous. Le cratère du Vésuve, comme nous le voyons maintenant, en fait, est le résultat de la dernière éruption qu'on a eue en 1944.
Le Vésuve est en éruption. Les coulées de lave ont déjà englouti plusieurs villages. Le volcan vomit 1 million de mètres cubes de lave par heure. Cette éruption paraît être la plus grave de toutes celles qui se sont produites depuis un siècle.
Moi, j'habite dans une zone qui est appelée rouge, avec risque maximum en cas d'éruption, et qui est construite sur les flancs du volcan. Mais on est fataliste. Il faut être fataliste. Mais en fait, on a oublié complètement le risque d'une éruption explosive. Parce que dans la période 1631-1944, on a eu seulement coulée de lave. La coulée de lave se canalise dans les vallées. Donc on peut savoir la direction de la coulée et puis elle marche très lentement. Donc elle peut donner à la population le temps de s'enfuir. Il y a des dégâts à les maisons, à les choses, mais il n'y a pas les morts. Et donc, on avait complètement oublié la nature aussi explosive de ce volcan.
Donc la mémoire des gens n'est pas sur la même échelle que le temps géologique.
Ah, oui. Oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai.
Mara, vous savez, en cas d'alerte, qu'est-ce que vous devez faire?
À peu près, la protection civile travaille sur les limites des zones. Chaque année, il faut modifier la limite.
Donc c'est un plan qui est encore en élaboration.
Oui, mais toujours. Et on sait certainement que habiter dans la zone rouge est fou.
Et vous, vos voisins dans la zone rouge, vous êtes prêts à partir, laisser votre maison pour peut-être des jours, des semaines, sans savoir s'il y aura une éruption?
Mais des mois? Oui. Et c'est le risque d'habiter dans la zone rouge, abandonner les maisons sans savoir s'il y aura l'éruption ou non. Et oui, c'est fou, je le sais, c'est fou.
En attendant, on profite.
Oui,
c'est très beau.
Devo camminare con loro?
Sì, possiamo arrivare dove? Alla funicolare.
Ah, va bene.
Interception sur France Inter.
Nous arrivons ici sur les hauteurs d'Ottaviano, devant un palais magnifique. C'est le Palazzo Medici, d'origine 16e siècle. Une façade blanche et ocre, des fresques peintes sur les plafonds. Ce palais a été confisqué à un boss de la Camorra et c'est ici que s'est installé le parc national du Vésuve en 2006. Agostino Casillo est le président de ce parc, 8400 hectares sur 13 communes, 350 000 habitants.
Notre parc est très beau car il y a une variété énorme de paysages, d'espèces. On a près de 700 essences de flore, une faune très particulière. La biodiversité du parc est très intéressante. On a 138 espèces d'oiseaux, par exemple, qui vivent là, dans leur habitat naturel, dans le parc national du Vésuve. Notre cratère du Vésuve, c'est le sentier numéro 5 du parc. Il est visité tous les ans par près de 700 000 personnes. C'est extraordinaire.
Comment vous, qui habitez ici et qui connaissez bien les gens, comment vous interprétez l'attachement des habitants à leur Vésuve ?
Il y a un lien viscéral, anthropologique au Vésuve. Pour nous, le Vésuve n'est pas qu'une montagne, c'est une présence, c'est lui. Écoutez, je vous raconte une anecdote. Quand j'étais petit, mon grand-père venait me chercher à l'école. Un jour, il est arrivé en retard et je me suis mis à pleurer parce que je ne le voyais pas arriver. Et quand mon grand-père m'a vu, il m'a dit « Mais pourquoi tu pleures? Tu ne peux pas te perdre ici, lève la tête, regarde le Vésuve et tu peux t'orienter. » Le Vésuve, c'est donc notre point d'orientation. C'est une partie intégrante de notre vie. Et sans doute que quand le peuple vésuvien a perdu de vue le Vésuve, nous avons fait des choses négatives et mauvaises. Au contraire, quand nous l'avons gardé en ligne de mire, on a toujours fait les bons choix. Avant, parler tourisme, agriculture, développement durable était perçu comme le discours d'écolo, élitiste et naïf. Mais aujourd'hui, une bonne partie de la population commence à voir dans ces aspects l'avenir de cette terre et croit à un développement nouveau du territoire.
Agostino Casillo, vous êtes le président du parc national du Vésuve. 300 000 habitants dans ce parc. Dans quelle mesure cette urbanisation importante pose problème ?
C'est un grand problème, peut-être le plus grand de ce territoire. Avant l'instauration de ce parc, on a permis dans les années 70-80 un développement urbain chaotique et incontrôlé qui a généré un sérieux problème d'anthropisation. On a trop consommé les sols. Le parc a été un frein à ce développement. Ça crée des problèmes, bien sûr, car l'activité humaine des centres urbains a un impact sur l'environnement.
Ces constructions, on les voit au bord des routes. Des squelettes de béton brut, des piliers, des étages fantômes envahis par la végétation. Beaucoup de ces immeubles bâtis sans permis sont habités. Plusieurs lois d'amnistie dans les années 80-90, loin de mettre un terme au phénomène, l'ont encouragé. Tous les ans, l'association Legambiente publie le rapport Ecomafia. Dans toute la Campanie, explique Antonio Galuzzi, qui a dirigé l'association dans la région, on compte plus de 70 000 constructions illégales. Ça va du percement d'une fenêtre non autorisée aux immeubles d'habitation, mais impossible de savoir combien de personnes y vivent.
Le nombre de personnes dans les constructions illégales, on ne l'a pas. On sait qu'en tout, il y a plus de 3000 décisions judiciaires de destruction. Le problème, c'est qu'il y a des immeubles illégaux, mais qui ont été régularisés. Le procureur de Naples, l'année dernière, en 2018, je vous lis ce qui est écrit. Il dit qu'en Campanie, deux maisons sur trois sont complètement illégales. La moyenne nationale est de 19%, mais dans la région ici, on arrive à 62,3%.
Nous sommes ici sur les pentes du Vésuve, nous sommes ici dans la zone rouge d'évacuation du Vésuve. Quelles conséquences concrètes ont ces constructions abusives ?
Voici une donnée. 27 000 cas d'abus relevés dans la zone rouge du Vésuve, qui comprend 25 communes et la partie orientale de Naples. Les communes n'ont pas sur leur page internet et ne communiquent pas le nombre réel des habitants résidents. Je ne sais pas s'ils ont vraiment fait un recensement des immeubles illégaux en rapport avec les habitants qui les occupent. Figurez-vous que la seule région Campanie a une densité de 300 habitants au kilomètre carré. Dans la province de Naples, on monte à plus de 2500 habitants au kilomètre carré. Mais dans certaines communes, on arrive à 8000, 10 000 et même 16 000 habitants au kilomètre carré. En cas d'évacuation, voilà ce qu'on dit dans ces villes. Se sauve qui le peut. Vous voyez la route par laquelle on vient de passer ? Vous imaginez ce que ça fait en cas d'évacuation ?
2,10 m
de large. On ne pouvait même pas y manœuvrer avec notre propre voiture.
Bonjour. Luca,
piacere.
Je suis Luca Capasso, le maire d'Ottaviano, une ville de 23 000 habitants dans la province de Naples. J'ai été élu en 2013.
Nous sommes ici vraiment sur les pentes du Vésuve, au pied du Vésuve. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe ici, sur la place de la commune de Ottaviano ?
Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si on ne nous prévient pas à temps, on risque très très gros. C'est un danger complètement fou. Et nous avons besoin surtout d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'avoir une évacuation en sécurité. Et ça, c'est compliqué. Car nos rues ici ne sont pas adaptées pour évacuer près de 23 000 habitants. On s'est pourtant équipé. On est une des premières communes qui a fait son plan d'évacuation. On a fait un recensement de la population pour savoir si les gens sont autonomes ou pas. S'il y a des personnes handicapées dans les habitations pour pouvoir les évacuer. Et on a mis en place aussi des lieux de rassemblement pour pouvoir ensuite emmener les gens là où ils devront aller.
Comment sont les infrastructures routières ici à Ottaviano? Est-ce que c'est facile de dire aux gens prenez vos voitures et évacuez, sachant qu'on doit faire ça en 72 heures?
Selon moi, si on donne l'alarme dans les 72 heures, nous aurons de grosses difficultés. La peur joue beaucoup dans le succès ou l'échec du plan d'évacuation. Les gens ne sont pas préparés. Nous avons fait un plan sur le papier, mais il faudrait qu'on commence à faire des exercices sur le terrain. C'est fondamental d'apprendre aux gens comment on suit un plan d'évacuation. On l'a expliqué dans les écoles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut éduquer les gens, leur apprendre à évacuer une zone, une ville, un village. Et puis aussi, nous avons de mauvaises infrastructures. Nos rues sont étroites. Ce sont de petites rues, de centres anciens, et s'il y a un tremblement de terre et qu'un immeuble s'effondre, là, on aura des problèmes pour évacuer. En plus de ça, on a une route principale pour l'évacuation, la 268, une route nationale qui est un axe majeur de toute la région du Vésuve, qui est incomplète, et le gouvernement, au lieu de la compléter, ne le fait pas.
Vous avez mis en place un autre système que le système des jumelages décidé par la protection civile? C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que la population de Ottaviano parte s'installer dans la région du Lazio qui est trop loin. Vous avez élaboré un plan alternatif.
Immaginate un attimo tutta la popolazione intorno al Vesuvio.
Si toute cette population autour du Vésuve quitte la Campanie, vous imaginez un peu les problèmes techniques et économiques qu'elle devra subir. C'est pourquoi nous avons présenté un plan alternatif. Nous avons démontré, avec des faits, que cette évacuation pouvait rester à l'intérieur de la région Campanie. Je vous donne un exemple personnel. Je suis avocat. Demain, on m'envoie à Frosinone.
Qui est qui me potrebbe venire come cliente da me?
Comment je trouve des clients? Je travaille avec qui? Alors que, par exemple, à Avellino, en Campanie, je pourrais poursuivre mon activité professionnelle. Donc, on pourrait plutôt imaginer cette réorganisation en restant tous en Campanie et ne pas imposer un éloignement qui pourrait être psychologiquement atroce pour la ville et ses habitants.
Ici à Ottaviano, nous sommes sur les pentes du Vésuve. Les 23 000 habitants doivent être en théorie envoyés vers Frosinone dans le Lazio en cas d'évacuation s'il y a l'alerte rouge. Un non-sens pour Enzo Coronato de la fondation Convivenza Vesuvio.
Les gens sont très sceptiques.
Les régions d'accueillance, comment se sont préparées aujourd'hui?
Comment les régions d'accueil se sont-elles préparées pour accueillir éventuellement les Vésuviens? Par exemple, dans le Val d'Aoste, ils ont été pris de convulsions pour accueillir 70 personnes qui ont fui l'Afrique. Il a fallu que l'État intervienne pour qu'ils les accueillent. Alors vous imaginez quand ils devront accueillir 20 à 30 000 Vésuviens. Ça n'ôte rien aux capacités d'accueil des gens du Val d'Aoste, mais il faut se rendre compte qu'il n'existe pas de prédisposition à l'accueil.
Vous êtes très critique du plan d'évacuation prévu par la protection civile parce que vous pensez que les gens ne sont pas assez informés.
Écoutez, les gens habitent ici depuis 3000 ans et sont enracinés sur ce territoire. On ne voit pas dans l'histoire cet événement énorme, cette catastrophe définitive, cet Armageddon du Vésuve. Donc c'est bien de calibrer une dévastation maximum, mais en pratique, prenons plutôt en considération une alarme moyenne ou petite.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
À moins de 10 km à l'ouest du cœur de la ville de Naples, les scientifiques redoutent et surveillent au moins autant que le Vésuve la zone des champs phlégréens. Il s'agit en fait d'une caldeira, une zone dépressionnaire résultant d'éruptions très anciennes qui recèle plusieurs dizaines de petits volcans souterrains dont on sait qu'ils sont en activité. Le sol se soulève régulièrement, de près de 8 cm par an depuis 2005. Plusieurs communes sont situées à proximité immédiate et c'est là que nous retrouvons Anaïs Feuga en compagnie d'un des meilleurs spécialistes du site.
En bas, on voit une étendue blanche, un peu lunaire. Sur les bords de ce cratère, on sent l'odeur du soufre et on voit et on entend ces fumerolles, en fait, le bruit de ces fumerolles. On retrouve Roberto Isaia, vulcanologue, chercheur à l'Observatoire du Vésuve.
Ce volcan est encore actif. Il a une longue histoire et il a connu des éruptions très grandes. La plus ancienne que nous connaissions date de 80 000 ans. Mais la chaudière volcanique des Champs Phlégréens est une grande zone de 12 km sur 10. Elle s'est formée lors de ces grandes éruptions, l'une d'entre elles il y a 40 000 ans. Dans son histoire plus récente, c'est-à-dire les 15 000 dernières années, il y a eu 70 éruptions. Ça veut dire qu'il y a 70 volcans éparpillés à l'intérieur de cette grande zone. La dernière éruption historique, celle du Monte Nuovo, s'est passée en 1538, ce qui est très récent. Si on regarde ces phénomènes, cette éruption récente, l'activité fumarolienne et hydrothermale ici à la Solfatara, toutes les secousses des tremblements de terre qui ont lieu en permanence, et enfin le phénomène de soulèvement des sols, tout ça nous indique clairement que le volcan est encore actif aujourd'hui.
La particularité de cette zone, c'est qu'elle est extrêmement urbanisée. Est-ce que ça pose un problème justement par rapport au plan d'évacuation ?
Bien sûr, c'est très dangereux.
Pourquoi les volcans napolitains, le Vésuve et les Champs Phlégréens sont-ils les plus risqués au monde ? Parce que le risque, c'est une équation entre la dangerosité, la vulnérabilité et la zone exposée. C'est un produit de trois facteurs. Et dans cette zone, ces trois facteurs sont très hauts. Donc, clairement, nous sommes dans une zone à haut risque.
L'area rossa dei Campi Flegrei contiene all'interno.
La zone rouge des Champs Phlégréens contient les quartiers situés à l'est de Naples, plus la ville de Pozzuoli. Ce sont plus de 550 000 personnes à évacuer.
Roberto Isaia, vous êtes vulcanologue. Le niveau d'alerte de la protection civile est passé de vert à jaune en 2012. 7 communes ici dans cette zone sont concernées par une forte probabilité de couler pyroclastique à la suite d'une éruption. Quelle est la perception de la population sur les risques ici ?
La population pense dans sa grande majorité que le volcan le plus dangereux et le plus proche qui puisse causer des dégâts, c'est le Vésuve. Le Vésuve, c'est un volcan, c'est une montagne, on le voit bien. La morphologie des Champs Phlégréens, plat, avec des plaines et des petites collines, c'est presque impossible d'identifier que c'est un volcan. En plus, le Vésuve est connu à cause de Pompéi, alors que les Champs Phlégréens n'intéressent personne. Bref, le résultat, c'est que la population dans les Champs Phlégréens a une très faible conscience du fait qu'elle vit à l'intérieur d'une aire volcanique active et qu'elle pourrait être touchée. Je pense qu'il faut faire des efforts de communication sur les Champs Phlégréens par rapport au Vésuve.
Pour essayer de répondre à ces inquiétudes, la protection civile italienne doit organiser des exercices d'évacuation grandeur nature. L'idée, c'est bien sûr de tester la chaîne de secours, mais surtout de sensibiliser la population. 1 150 000 habitants sont concernés. Au terme d'accords de jumelage spécifiques, ils sont supposés, en cas d'alerte, être évacués vers une quinzaine de régions italiennes. On retrouve Anaïs Feuga au pied du Vésuve.
Depuis plus de 2000 ans et malgré les éruptions, les Vésuviens restent sur les pentes du volcan. Un élément de réponse se trouve ici, Somma Vesuviana, on est au pied du cratère. Un chantier de fouilles à nos pieds, 10 mètres en contrebas ici, s'étend une immense villa romaine, quasi intacte. Une pépite archéologique, colonnes, voûtes, fresques, mosaïques. Franco Mosca nous ouvre les portes. On est en haut des murs et on est en train de descendre. Villa Augustea.
Mais voici à mi-chemin entre Naples et Nola, les deux villes les plus anciennes de ce territoire. Et ce bâtiment représente une nouveauté absolue. C'est un des très rares exemples de reconstruction après l'éruption de 79. On pensait que la région du Vésuve avait été abandonnée après 79. Il y a eu réellement un abandon des terres, mais dans la zone maritime, vers Pompéi, Herculanum. Cette zone a été abandonnée pendant 4 ou 5 siècles, complètement abandonnée. On pensait que c'était la même chose vers l'intérieur des terres. Eh bien non, cette construction est née 20 ou 30 ans après l'éruption du Vésuve de 79. C'est un exemple de reconstruction après un désastre, et c'était il y a 2000 ans. Et puis 4 siècles plus tard, en 472, elle a été ensevelie par une nouvelle éruption.
Mais c'est incroyable de se dire que 30 ans à peine après l'éruption de 79, les Romains sont venus et ont reconstruit ici alors qu'ils étaient juste à côté, mais on est vraiment sur les pentes même du Vésuve. C'est un exemple de résilience des habitants du Vésuve.
Oui, bien sûr. Les Vésuviens sont habitués à toutes ces histoires. Ça fait des millénaires qu'ils ont une relation avec le Vésuve. Quelquefois de façon tragique, quelquefois moins. Mais il y a un lien très fort. C'est dû tout d'abord à l'endroit où nous nous trouvons et surtout à la fertilité des lieux, la présence de l'eau. Disons que c'est un territoire béni.
Napoulé mille paure Napoulé a voce recreatura Casa eia piano piana E tu sai che non si solo
Vésuve, la fertile malédiction des Napolitains. C'était un reportage d'Anaïs Feuga, prise de son Romain Lukiens, mixage Anne-Laure Cochet. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Coum. Dimanche prochain, nous vous proposerons de réécouter Violence conjugale, l'épreuve de la plainte, un reportage de Vanessa Descoureaux, déjà diffusé le 17 novembre dernier. À la semaine prochaine.